France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Et ce matin, effectivement, nous sommes en public et en direct de la Courneuve à l'occasion de la fête de l'humanité qui appartient à l'histoire politique mais aussi à l'histoire musicale. Tous les chanteurs ou presque s'y sont produits, de Charles Trenet en 1938 jusqu'à Renaud de retour cette année. C'est cette histoire en chanson que nous allons raconter avec l'écrivain Valère Staraselski, auteur d'un ouvrage sur la fête de l'humanité, et Edgar Garcia qui programme les artistes. Et puis j'accueille également plusieurs musiciens, Julie et Camille Berthollet qu'on retrouvera tout à l'heure. Et pour commencer, les ogres de Barbac et les hurlements de Léo qui ont bien voulu ouvrir le bal.
Mesdames et messieurs, en direct de la fête de l'Huma, un air de famille avec Jojo à l'accordéon. C'est une rue pas très grande avec trois fleurs et deux oiseaux. On y vend de la pâte aux amandes, des cacahuètes et du bordeaux. Et un mec sur un banc, il s'est fait larguer par la lise. Ça nous étonne pas vraiment, elle change de mec comme de chemise. Et passe et repasse le temps, mes souvenirs et ma joie. Dans cette rue que j'ai tout enfant, j'apprenais l'harmonica. Ça se danse la valse. Et quand le soleil se cache, tout au fond derrière le toit des maisons, il y a des parents qui accomplissent leur tâche, des enfants qui se tirent à l'horizon. Il y a les chiens qui se mettent à aboyer, les vieux qui se mettent à picoler, et moi qui rentre dans mes cauchemars, qui me vois plus tard en costard. Et passe et repasse le temps, mes souvenirs et ma joie. Dans cette rue que j'ai tout marmot, j'apprenais plein de gros mots. Quand on prenait nos bicyclettes, on faisait nos parties de sonnette. On amenait la lise dans ce coin, on lui faisait montrer nos jaguars. Elles étaient pas plus grandes que ça, faut dire c'était des majorettes. Tu fais pas différence à cet âge-là, une majorette, c'est une empirette. Et passe et repasse le temps, mes souvenirs et ma joie. Dans cette rue déjà tout petit, on chauffait comme un malade dans mon saxo. Il n'est pas question ici de parler d'appartenance, car c'est bien du béton pourri comme dans toutes les résidences. Mais j'ai bien trop de souvenirs, cette rue a fait mon avenir, et c'est du meilleur jusqu'au pire que je veux tous les voir mourir. Et passe et repasse le temps, mes souvenirs et ma joie. Dans cette rue jusqu'à la fin des temps, j'ai encore de l'harmonica. Paraît qu'un jour il veut la détruire, mais faudra d'abord qu'il passe sur le corps de ce 150 loups-barons en cuir qui sont tous prêts à y laisser leur mort. Fête de l'Huma, ça va ou quoi?
Ouais.
Et moi je serai là jusqu'au dernier, avec dans la main un pavé, dans cette rue qui m'a fait comme je suis, un sac con mais pas pourri. Si un jour le soleil s'éteint, si un jour le monde s'écroule, si un jour la terre n'est plus rien qu'une bande de poivrons d'hommes saouls, il restera encore cette rue grande, fière et debout, où tu seras toujours le bienvenu et où je veux y creuser mon trou. Et passe et repasse le temps, mes souvenirs et ma joie. Dans cette rue jusqu'à la fin des temps, j'ai encore de l'harmonica. Et passe et repasse le temps, mes souvenirs et ma joie. Dans cette rue qui m'a fait combattant, combattant mais contre la loi. Et passe et repasse le temps. Et passe et repasse le temps.
Rue du temps, on applaudit Fred, le chanteur des ogres de Barbac Jojo, des hurlements de Léo qui était à l'accordéon. Fred, vous nous rejoignez et vous êtes avec Lolo, le chanteur des hurlements de Léo.
Salut.
Deux groupes qui seront ensemble cet après-midi. C'est pas la première fois, hein. Un air de famille, c'est votre nom quand vous vous rassemblez. Mais vous nous avez dit, je sais pas, sur les programmes, que c'était quasiment votre concert d'adieu en tant que couple.
Ouais, concert d'adieu, on sait pas, mais c'est vrai que Fred, par exemple, Fredo, pour rigoler, dit, on se revoit dans 15 ans. Pourquoi pas, on décidera ça plus tard. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, on va bien en profiter, effectivement, parce que c'est la dernière avant qu'on décide de
vous retrouver un autre jour.
Exactement.
Donc c'est une vieille histoire entre vous, hein, ces deux groupes, l'un de Bordeaux, l'autre de région parisienne.
Sergi-Pontoise.
Vous vous rassemblez, vous vous séparez, vous vous rassemblez, vous vous séparez.
En fait, on se croise il y a une vingtaine d'années sur un projet qui s'appelait le Latchaudrome, donc un chapiteau qui se baladait dans toute la France et dans l'Europe. Ouais. Et les ogres de Barbac avaient initié un petit peu le projet. On rencontre plein de groupes. Et là, on rencontre les hurlements de Léo. Les hurlements de Léo nous disent, bah, nous, on est assez foufous pour venir avec vous jusqu'au bout de la Terre. Donc, ils sont venus avec nous. On a fait le tour d'Europe avec ce chapiteau.
Voilà. Et cet après-midi, donc, vous êtes sur la grande scène, ouais. À la fête de l'Humain, avec un programme quoi, qui reprend, au fond, votre répertoire commun.
C'est ça.
On a fait un petit mélange entre le premier album qui était sorti il y a 15 ans. Il y a une ou deux nouveautés et surtout deux reprises que les gens affectionnent particulièrement, dont Salut à toi des Bérus.
Voilà, et donc avec combien de musiciens sur la scène aujourd'hui ?
On sera 12.
12, ouais. 12 musiciens, plein d'instruments. On va en reparler tout à l'heure parce que vous restez avec nous, vous allez jouer encore un petit peu pour nous et pour le public de la fête de l'Huma qui est là devant le stand, où d'ailleurs on peut nous rejoindre hein, au stand de Radio France à la fête de l'Huma où on est ensemble ce matin, donc avec un air de famille et puis les sœurs Berthollet tout à l'heure et avec aussi mon invité qui vient d'arriver, Valère Staraselski, avec qui on va raconter un peu l'histoire de la fête de l'Huma en chanson.
Étonnez-moi Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Bonjour Valère Staraselski.
Bonjour Benoît Dutertre.
Voilà, c'est la course dans les allées de la
fête entre
le village du livre, le studio de Radio France.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez écrit beaucoup de livres, Valère, mais vous avez écrit notamment un grand livre au Cherche Midi sur l'histoire de la fête de l'humanité.
Oui.
Hein, depuis 1930 jusqu'à nos jours.
Oui, jusqu'à 2015.
Jusqu'à 2015. Oui. Puisque c'est une histoire très ancienne, on va la raconter, j'ai dit, en chanson. Mais dites-nous, pour vous, la fête de l'humanité, ça a commencé comment, Valère Staraselski ?
Ça a commencé comme militant.
Voilà.
Et ensuite, comme bien sûr la fête. D'ailleurs, j'ai deux souvenirs, je peux les donner tout de suite. Et merveilleux pour moi, c'est le Boléro de Ravel avec chorégraphié par Maurice Béjart,
ouais,
le soir, avec Maya Pizeskaya. Et c'est ensuite le défilé de mode Yves Saint Laurent. Un vendredi soir...
Même des défilés de mode à la fête de l'humanité.
Devant 50 000 personnes qui étaient complètement émerveillées. Voilà. Et puis, bien sûr, de la musique et des chansons, évidemment.
Alors, on va en parler en musique et en chansons. Et je vous propose de remonter un peu tout de suite le temps avec la fête de l'Huma 1938. C'était Charles Trenet.
Ces fleurs bleues, un regard qui vous attire, ces fleurs bleues, des mots difficiles à dire, ces fleurs bleues, ces fleurs bleues, un rendez-vous en automne, ces fleurs bleues, une chanson qu'on fredonne, ces fleurs bleues, un jeune amour qui se donne, de grands yeux qui s'abandonnent, ces fleurs bleues, on envoie des pneumatiques à fleurs bleues, les dimanches sont poétiques, tout fleurs bleues. On se met du cosmétique dans les cheveux, oui, parbleu, pour fleurs bleues. On jure que l'on s'adore tous les deux, et l'on jurerait encore si fleurs bleues ne vous plaquait ça, c'est vache, pour un dragon, un moustache, morbleu. Elle n'est pas revenue mystérieux, oui, a jamais disparu sans adieu. Et je suis seul dans la rue, larmes aux yeux, larmes aux yeux, larmes aux yeux. Mais soudain le cœur bat vite, oh mon Dieu. La voilà, c'est la petite, l'air joyeux. Non, ce n'est pas elle qu'elle drame, c'est une assez grosse dame, pas fleur bleue. Alors le printemps, l'automne, sans fleur bleue, coule des jours monotones, ciel pluvieux. Et cet air que je fredonne sans fleur bleue devient vieux, ennuyeux. Pourtant ne soyons pas tristes pour fleur bleue. J'en ai là toute une liste, c'est bien mieux. Amourette passagère, joie peine de cœur légère, oui, fleur bleue. Un doux parfum qu'on respire, c'est fleur bleue. Un regard qui vous attire, c'est fleur bleue. Des mots difficiles à dire, c'est fleur bleue. C'est fleur bleue, c'est fleur bleue. Un rendez-vous en automne, c'est fleur bleue. Une chanson qu'on fredonne, c'est fleur bleue. Un jeune amour qui se donne, de grands yeux qui s'abandonnent, c'est fleur bleue.
Une immense foule que l'on peut évaluer à plusieurs centaines de milliers de personnes Sans pouvoir toutefois donner un chiffre exact, une foule immense se presse autour des stands dans les balles populaires près des tréteaux. Des scènes pittoresques se déroulent. Des familles entières sont venues ici passer une journée à la campagne. Les uns ont apporté leur couverture afin de pouvoir s'asseoir, d'autres leur sac à provisions, tous leur enthousiasme et leur bonne humeur. Les sections communistes de tous les arrondissements de la région parisienne ont installé leurs stands le long des allées, attirant la curiosité des spectateurs qui ont pour se distraire ici une quantité d'attractions. Nous sommes en ce moment au bas des tréteaux où se déroulent les scènes de la Renaissance française. Nous venons de voir passer les infirmières de la Croix-Rouge. Voici maintenant les ouvriers de la SNCF qui sont salués par de vibrantes acclamations.
Une ambiance de la fête de l'humanité, il y a très longtemps, ça c'était en 1945, oui. Valère Staraselski. Il faut rappeler que la fête, en fait, elle n'a pas commencé du tout à la Courneuve. Hein. C'était notamment dans les années 30 à Garches, je crois.
Ça a commencé à Beson. La première fête, c'était à Beson. Alors, c'est la première fête de l'humanité parce que le journal... Revenons sur les origines de cette fête. Le journal est en difficulté. Le Parti communiste, les dirigeants sont en prison pour la plupart. Et le pouvoir fait pression sur une banque pour que le journal Humanité rende l'argent qu'il doit à cette banque. Du coup, Marcel Cachin, qui dirige l'Humanité, Marcel Cachin qui a fondé le Parti communiste...
Au congrès de Tours,
mais il faut rappeler pour bien des communistes qui ne savent pas que Marcel Cachin était pour l'Union sacrée. Avant. Donc, comme quoi, en politique, on peut toujours évoluer. Et donc, Marcel Cachin, qui est directeur du journal, crée des comités de défense de l'humanité qui se réunissent à Beson au mois de septembre, 150. Et là, ils font une espèce de congrès, une première fête. Et on commence tout de suite à chanter, parce que le jeune secrétaire général de l'époque, à l'époque, il mettait des jeunes à la tête des partis politiques, notamment, en tout cas, du Parti communiste, et Maurice Thorez, qui fait une quête pour les mineurs qui sont en grève dans le Nord et qui, en même temps, chante le petit quinquin. Voilà. Donc, ça commence déjà comme ça.
Thorez chantait lui-même. Mais il faut dire que dès le début aussi, il ne s'agissait pas spécialement d'inviter des chanteurs ou des artistes militants. On l'a vu avec Charles Trenet, côté fête populaire.
Ah oui, fête populaire et ouverte. C'est-à-dire que c'est à l'époque où le Parti communiste sort de sa période sectaire et ouvriériste et sous la conduite de Thorez s'ouvre sur le plan national et va devenir un parti qui va faire la France jusqu'aux années 70, y compris dans le domaine culturel.
Il y a aussi toutefois, il faut dire, des spectacles. Alors un caractère plus politique, il y a notamment le fameux groupe Octobre, avec Jacques Prévert et tous ces gens-là qui sont très présents dès le début de la fête de l'humanité.
Avec aussi. Raymond Bussière, avec Georges Duhamel qui a créé la Syrie Noire qui joue aussi dedans, avec tous ces gens-là. Mais la fête de l'humanité, c'est de tout temps, c'est quelque chose de très ouvert sur la France telle qu'elle est.
Alors évidemment, la fête de l'humanité, elle va s'arrêter en 1939. D'ailleurs, la fête de 39 est annulée, je crois.
Elle est annulée et en fait, il n'y aura plus de fête. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que les otages de Chateaubriand, notamment, qui vont être fusillés. Enfin, Guy Moquet, etc., feront une mini-fête de l'humanité dans le camp.
Symbolique. Comme prisonniers.
Oui, comme prisonniers, ils vont faire une fête de l'humanité pour affirmer, en fait, leur appartenance à leur pays, à la France. Enfin, c'est aussi un acte national que d'affirmer cette appartenance à leur pays, et ils seront fusillés quelques temps après.
Voilà, et donc la fête, elle redémarre vraiment en 1945. Justement, on va retrouver un peu l'ambiance de 1945 avec, dans un instant, des petits, tout petits extraits des discours de Marcel Cachin et de Cachin. Maurice Thorez.
Attendez.
Не поверь, не трепать,
Les membres du bureau du Parti communiste prennent place sur la tribune. J'aperçois Marcel Cachin, Maurice Thorez, Jacques Duclos et André Marty. Marcel Cachin se lève, salué par de vibrantes acclamations.
Camarades et amis de l'humanité, comment vous exprimer la joie immense que nous éprouvons en cette journée si grandiose pour le journal de notre parti.
Après Marcel Cachin, c'est Maurice Thorez qui montait à la tribune.
Chers camarades, en cette fête magnifique de l'humanité, au nom du comité central du Parti communiste, j'ai la joie immense et la grande fierté de remettre au camarade Prouveau, un mineur de Bruay-en-Artois, la carte du millionième adhérent du Parti communiste français.
Le millionième, je ne sais pas d'ailleurs, Valère Staraselski, aujourd'hui, si on est à plus ou moins, peut-être un petit peu moins.
On est en ce moment, voilà, le Parti communiste n'est pas au mieux de sa forme. Il est toujours vivant, il a un groupe à l'Assemblée.
Bon, la fête a toujours pour objet, puisque c'était l'origine, vous nous l'avez dit avec Marcel Cachin qu'on vient d'entendre, aussi de renflouer un petit peu les caisses du journal L'Humanité quand c'est nécessaire?
Alors en fait, c'était des comités de défense de l'humanité qui sont devenus des comités de diffusion de l'humanité. Ouais. Il se trouve que la fête de l'humanité est pas bénéficiaire depuis quelques années, elle est même plutôt déficitaire. Ouais. Non, c'est une façon de faire vivre le journal, de faire vivre cette opinion, qui est l'opinion du Parti communiste, aussi faible soit sa voix aujourd'hui. C'est vraiment une façon d'aller vers les gens et de faire en sorte que cette voix puisse, que cette opinion puisse, ces opinions puissent être exprimées et entendues.
Voilà, mais ça reste aussi une grande fête populaire. On le voit avec tout le monde qui se presse dans les allées.
C'est d'ailleurs ce que j'ai été étonné quand j'ai fait ce travail sur la fête de l'humanité. Je pensais qu'il y avait des fluctuations importantes. Eh bien non. Il y a à peu près toujours, bon, sauf en 1945 où il y avait vraiment 1 million de personnes, il y a toujours à peu près un peu plus d'un million, entre un petit peu moins et un peu plus d'un demi, de 500 000 personnes.
Alors il faut dire que la période de l'après-guerre, hein, les plus grands artistes ou beaucoup d'entre eux se sont rapprochés du Parti communiste. C'est comme ça qu'il y a Picasso, Fernand Léger, par exemple, pour parler des grands peintres qui sont associés à l'époque à la fête de l'humanité.
Ils ont même adhéré au Parti communiste. Picasso est mort avec sa carte du Parti communiste en poche. Et l'après-guerre, on vient d'entendre les chœurs de l'Armée rouge. Un peu important parce que c'est vrai que l'Union soviétique, quoi qu'il soit passé là-bas, a pesé au XXe siècle socialement, économiquement et politiquement dans la vie d'Occident. Il y a même des gens qui disent, Lozourdo dit par exemple que sans l'existence de l'Union soviétique, il n'y aurait jamais eu les déclarations des droits de l'homme de 1948. Je demande juste qu'on réfléchisse un peu à ça. Et n'oublions pas, Poutine le rappelle dans un entretien avec Oliver Stone, que 80% des armées hitlériennes ont été détruites par l'armée rouge. C'est un fait historique et on leur doit quand même ça.
Mais les cœurs de l'armée rouge, ils viendront plus tard, cela dit, à la fête de l'humanité.
Ils viendront plus tard.
En 1968.
Et pas si souvent que ça. C'est comme Jean Ferrat. Jean Ferrat est venu deux fois, alors que Johnny Hallyday est venu beaucoup plus que Jean Ferrat,
voilà,
par exemple.
Tout le monde est venu à la fête de l'humain, on va le voir tout à l'heure. Oui. Et parmi les chanteurs aussi qui sont présents dans ces années d'après-guerre, alors j'ai noté quelques-uns, il y a par exemple Henri Salvador,
parce qu'en même temps, le parti du le RPF, les gaudistes, font une kermesse des étoiles en même temps.
Aux étoiles, qui était aussi un grand rassemblement populaire.
Voilà, mais personne n'a réussi à durer comme la fête de l'humanité, personne n'a réussi à égaler la fête de l'humanité, qui est en fait la fête du peuple, des couches populaires, qui sont aujourd'hui rayées de l'écran dans tous les domaines, y compris politiquement, malheureusement. Donc le rôle du Parti communiste et de l'humanité, c'est de faire en sorte que les couches populaires puissent participer beaucoup plus directement à la démocratie. Faut pas les laisser dans l'abstention, faut pas les laisser au FN. C'est leur créneau, c'est leur raison d'être. À la libération, bien sûr, il y a une flopée d'adhésions au Parti communiste. Et ce parti, d'ailleurs, va reconstruire la France. Hein, c'est Maurice Thorez qui appelle à se relever les manches, à reconstruire la France. Mais
Avec d'autres, quand même.
Non, avec d'autres. Non, mais en tout cas, à gauche, on lui a assez reproché. Bien sûr, avec d'autres, bien sûr, c'est effectivement les gaullistes et les communistes qui vont reconstruire la France et qui vont en faire, d'ailleurs, ce pays d'exception dont il reste quelques petits trucs encore aujourd'hui intéressants.
Voilà. Et alors, parmi ces artistes qui sont très présents, donc, à la fête de l'humanité dans les années d'après-guerre, il y a aussi Francis Lemarque.
Il y a Francis Lemarque, oui.
Je vous propose d'écouter sa chanson. Marjolaine, un mot sur cette chanson.
Alors, c'est la guerre d'Algérie. Et cette chanson, c'est un quand c'est, il a écrit aussi quand un soldat revient de guerre, et donc c'est un soldat qui s'adresse à sa bien-aimée.
Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleuri, Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui, je reviens près de toi. Tu m'avais dit, je t'attendrai, je t'avais dit, je reviendrai, j'étais parti. Encore enfant, suis revenu un homme maintenant. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, je n'ai pas menti. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui, je reviens près de toi. J'étais parti pour 10 années. Mes 10 années ont tout changé, rien n'est pareil. Et dans ta rue, à part le ciel, je n'ai rien reconnu. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps s'enfuit. Marjolaine, je sais trop bien qu'amour perdu plus jamais ne revient.
Et c'était donc Marjolaine par Francis Lemarque avec les jolis arrangements de Franck Haussmann, alias Jean-Michel Defay, qui est aussi l'orchestrateur de Léo Ferré. On va le retrouver dans un instant. Mais nous sommes à la Fête de l'Humanité. Vous l'entendez peut-être sur France Musique avec les bruits d'ambiance dans toutes ces allées de la fête. Voilà, le public est là avec nous également. Merci. Alors, on m'avait d'ailleurs prévenu, Valère Staraselski, vous qui êtes un habitué de la fête, qu'il fallait mieux que je prenne des bottes parce que ça allait être la boue. En fait, non, les allées sont goudronnées. Hein, on peut marcher, il faut préciser, tout à fait normalement à la Fête de l'Humanité. Mais quand j'ai relu votre livre sur l'histoire de la fête, il faut dire que c'est quand même beaucoup une histoire de pluie et de boue. Je ne sais pas pourquoi ça tombe toujours début septembre dans des moments météorologiques un peu troublés, on a l'impression.
Oui, alors c'est vrai que là, maintenant, toutes les allées de la fête sont bétonnées. Mais pendant très très longtemps, elle ne l'était pas. Donc en 57, en 48, on a retrouvé des tonnes de chaussures dans la boue. Oui, les gens perdaient leurs chaussures. Et par exemple, 57, qui est une fête qui a été catastrophique de ce point de vue-là. Heureusement, on avait inventé la vignette en 1952. Donc, ouais. Parce qu'avant, on allait acheter les vignettes de la fête de l'UMA chez les marchands d'articles de pêche, au café, etc. Après, ils vendent militantes. Et donc, ils ont vendu 315 000 vignettes, mais il n'y a eu que 52 2000 personnes, mais qui étaient dans la boue jusqu'au cou, la gadoue, quoi. Là, donc, la gadoue. La chanson.
La chanson de Pétula Clark et Gainsbourg. En tout cas, donc, tout cet aspect festif, aussi autour de la restauration, etc., ça s'est développé, j'imagine, donc, au fil des années.
Peu à peu, d'abord, c'était un peu kermesse. Ensuite, je veux dire, la libération, ça a pris une ampleur très importante. La radio a rediffusé. La presse, l'autre presse, qui n'était pas de gauche, qui prenait ça de haut des années 60 commence à en parler, les annonceurs viennent, il y a une cité commerciale à un moment donné, je ne sais plus en quelle année, mais il y a un vendeur de pianos qui vient, qui arrive à vendre 8 pianos pendant la Fête de l'Humanité, et effectivement ça devient un rendez-vous national. Maintenant je pense que la Fête de l'Humanité, petit à petit, il y a eu une direction de la fête, enfin tout ça s'est installé, et c'est devenu un peu comme les vendanges et Notre-Dame de Paris, ça appartient au patrimoine national, à tel point d'ailleurs que les ministres de droite depuis 2007
viennent à la fête,
viennent débattre, parce que c'est certainement un lieu de débat politique sur les questions de société mais de civilisation, le unique en France sur tous les sujets. Il y a 200 débats, je veux dire, en 3 jours, là, par exemple.
Alors vous-même, Valère Staraselski, vous êtes à la fois, j'ai envie de dire, un militant, oui, et un écrivain, auteur, oui, de nombreux livres. Vous avez écrit sur Aragon, par exemple, oui, des livres importants, mais, oui, aussi beaucoup de romans, de, oui, livres personnels. Oui. Ça s'est passé comment, ce parcours, ce lien avec le Parti communiste, pour vous?
C'est-à-dire que moi, j'appartiens aux classes d'en bas, ouais, classes populaires, donc... Dans les années où j'étais adolescent, le Parti communiste jouait ce rôle de, je vais pas dire d'encadrement, mais d'impulsion pour les couches populaires, de donner le meilleur de soi. Voilà. Et j'ai le souvenir, par exemple, quand j'étais étudiant, quand j'étais découragé parce que j'ai commencé à travailler très tôt, et évidemment, je travaillais la nuit, etc. Le secrétaire général du Parti communiste à l'époque, Georges Marchais, disait: écoutez, vous êtes étudiant communiste, votre premier devoir, c'est de réussir vos études. Je suis allé jusqu'à un doctorat de lettres.
Voilà, vous avez fait des études brillantes.
Voilà, brillantes, je sais pas, mais en tout cas, je suis allé jusqu'au bout, alors que j'étais pas normalement destiné à ça. D'ailleurs, on revient dans une époque où effectivement, on a perdu ça. Mais je ne suis pas tout seul, on est toute une génération comme ça.
Voilà, mais c'est important de le dire, et on, ouais, vous retrouvera d'ailleurs aussi au Village du Livre.
Je suis au Village du Livre, bien sûr.
Bien, ouais, sûr, pendant la fête de l'humanité. J'ai voulu aussi qu'on écoute un petit peu d'accordéon. On en a écouté tout à l'heure, d'ailleurs, avec les hurlements de Léo, mais oui, l'accordéon, j'imagine, instrument populaire par excellence, a été présent à la fête de l'humanité depuis l'origine.
Depuis l'origine, il y a toujours eu, alors en plus, Yvette Horner est venu, il y a eu Marc Perron, etc. Et l'accordéon, oui, c'est vraiment l'instrument de la fête de l'humain. Enfin
également, d'ailleurs, vous avez cité Marc Perron et Yvette Horner, mais également le grand Joe Privat qui est venu à la fête de l'humanité.
Bien sûr.
Joe Privat, c'était Nuit Blanche en 1946.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Et nous sommes toujours à la fête de l'humanité, en direct et en public, dans les allées un peu fraîches, mais bien, bien remplies, avec un public nombreux du parc de la Courneuve. Vous pouvez également nous rejoindre. Je suis en compagnie de Valère Staraselski, qui a écrit l'histoire de la fête de l'humanité. Et puis je suis en compagnie de musiciens, et notamment Camille et Julie Berthollet, qu'on retrouvera tout à l'heure avec leur violon. Et aussi deux grands groupes de la scène, de la chanson française, les Ogres de Barbac et les Hurlements de Léo, deux groupes qui se rassemblent ensemble régulièrement sous le titre de Un air de famille, et ce sera le cas cet après-midi à la fête de l'humanité. Je voudrais d'ailleurs vous poser une question à tous les deux, Fred, le chanteur des Ogues de Barbac, Lolo, le chanteur des Hurlements de Léo. On a parlé d'accordéon, de musique populaire. Vous avez un lien fort, vous êtes à la fois, on peut dire, des groupes pop, des groupes rock, et aussi des groupes qui sont bien ancrés par les choix instrumentaux dans ces traditions-là.
Nous, en fait, on se dit...
Les Ogres de Barbac, par exemple.
Nous, on se dit groupe de scène.
Ouais.
Groupe de scène, parce qu'en fait, notre vie, c'est la scène.
Ouais.
Donc, c'est vraiment, peu importe, ça peut paraître un peu banal comme ça de le dire, mais peu importe le style, sur scène, on peut avoir un accordéon, un violoncelle, un violon, on a de la guitare électrique, on a des boucles sur ordinateur... Les Hurlements, c'est un peu pareil. Je crois qu'on se dirige vraiment vers un melting pot de toutes ces musiques. Et puis,
un melting pot.
Ouais. Hein.
Et les Hurlements de Léo, peut-être avec une couleur un peu plus rock, mais il y a aussi ce lien assez fort quand même avec la musique populaire, une certaine tradition.
Ouais. En fait, c'est surtout au niveau du discours également, comme les Ogres, on aime bien aussi pas parler que de son nombril, et parler plutôt de ce qui... arrive aux gens.
Ouais.
Donc on est ravis de jouer à la fête de l'humanité aussi pour ça, parce que il n'y a pas que des Parisiens qui se retrouvent ici, il y a des gens qui viennent de partout en fait, donc ça fédère, et puis on discute et puis on essaye de comprendre comment on en est arrivé là et comment on peut s'en sortir, quoi.
En tout cas, je le redis, l'accordéon est à l'honneur dans votre groupe depuis
l'origine.
Tout à
fait, l'accordéon depuis l'origine, oui. C'est vraiment le seul instrument qu'on a cherché en fait.
Ouais.
Après, on s'est tous trouvés les uns et les autres, mais Jojo, donc, il joue de l'accordéon.
On va réentendre dans un instant.
Divinement bien, justement, on va chanter une chanson qui s'appelle comme lui d'ailleurs, qui s'appelle Jojo.
Il s'appelle Jojo.
Est à l'honneur, oui, à l'accordéon.
Et vous serez en tournée alors à l'automne, mais alors sans les Ogues de Barbac.
Oui, il est probable qu'ils ramènent le bout de leur nez de temps en temps.
Mais c'est pas un vrai divorce, hein, tout ça.
Non, mais c'est pas du tout un divorce. Non, c'est une pause pour que chacun fasse ce qu'il a à faire.
Et vous partez en tournée, donc
Ouais, pour nos 20 ans, ouais, parce qu'on a 20 ans.
Pour nos 20 ans.
Et on a toujours 20 ans, tu vois, on n'a pas bougé.
Ben hein. Oui, c'est vrai, ça. Ouais. On n'avait pas l'air d'avoir.
Merci. Tu n'as pas changé, Lolo.
Et Fred, vous, donc, les Hurlements de Barbac, vous allez sortir un nouveau disque. Alors, justement, encore le lien avec la chanson populaire française, puisque c'est un hommage à Pierre Perret. Ouais. En tout cas, vous revisitez le répertoire de Pierre Perret.
En fait, on a orchestré tout un album avec des chansons qui nous tenaient à cœur, des chansons qu'on a écouté nous petits avec nos parents, et on a appelé plein d'artistes. Il y a Fefe, il y a Flavia Coelho, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a une quinzaine, même voire une vingtaine, et on a été chercher un peu tous ces artistes pour reprendre des chansons de Pierre Perret, et Pierre Perret était là à chaque fois, il était ravi, et pour nous, on trouve que c'est un très très beau résultat. Donc ça sort le 20 octobre, un tribut de tout Pierre Perret.
Et le choix de Pierre Perret, c'est vous y êtes tomber vraiment spontanément tous les frères et sœurs,
c'est,
là, vous avez
c'est
tous...
une rencontre sur un festival et puis un bonhomme à l'image de ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire vraiment très 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 accueillant, c'est devenu un pote, quoi.
Alors on va je vous laisse rejoindre vos camarades, avec également donc Jojo à l'accordéon des Hurlements, avec Julien au chant également des Hurlements, et puis avec la guitare, avec Sam des Ogues de Barbac. On va vous entendre tous les cinq maintenant dans un morceau, comme vous nous l'avez dit, qui s'intitule effectivement Jojo.
Alors c'est les Ogres de Barbac, les Hurlements de Léo. Ça s'appelle un petit air de famille. Il y a du monde à la fête du monde, quoi.
Yes, papa.
On appelle ça un petit air de famille.
Check ça.
T'es parti en tournée, t'as laissé ton gosse ton aimé.
Tu m'as demandé pourquoi, pas voir si tout se passe bien chez moi.
Ta femme, j'ai bien, on s'est trouvé les points communs. Un petit clone et l'enfant,
pas besoin de te faire un dessin.
Jojo, pour moi, t'es le roi des rois, t'es le plus grand des plus grands.
T'es la star, à l'instar des stars.
Et la star, j'ai croisé son regard.
Je me suis dit, pas de lézard. Il m'a toujours conseillé de profiter des instants volés.
Tu me dis, la vie, ça va, ça vient, c'est du copier-coller.
Prends l'amour comme le tien et tu seras toujours pardonné.
On a qu'une vie, c'est celle-ci, pas de gâchis, pas de chichi.
On disait tant mieux, pas de raison d'être amoureux.
Jojo,
ça va, Dumas.
J'suis qu'un mauvais présage, un sale gosse passage, un vieux copain qui craint, fâché du quotidien, enfant pourri gâté, qui sait pas s'arrêter, qui passait sans prévenir, devient mauvais souvenir.
Oh Jojo, faut que tu m'excuses ma gueule, j'supporte pas les femmes seules. Plus on veillait, plus on vient comment on écrit de chansons.
Chansons.
On s'est suivi depuis longtemps.
enfant, j'étais derrière, t'étais devant.
On n'a pas tous la même chance, j'étais toujours ton remplaçant.
Au football, en récré, quand on faisait des 400 coups,
c'est toujours moi qui les prenais, évidemment ça fait beaucoup.
Les râteaux, les cadeaux, les genoux écorchés,
c'était mon pain quotidien, ma leçon, ma corvée.
Un destin malsain,
et ce truc dégueulasse,
tu fais toujours comme maillot de bord.
Moi j'ai la gaule et toi la classe.
La fois que t'as fait le mur,
t'as rencontré l'amour,
sur celui qui dure.
Moi j'attendais dans la cour,
dans la voiture volée,
mais qui s'est fait serrer.
J'avais beau leur expliquer,
c'est toi qu'on avait eu l'idée.
Qu'un mauvais présage, un sale gosse passage, un vieux copain qui craint,
fâché du quotidien,
enfant pourri gâté qui sait pas s'arrêter. Tu passais sans prévenir, deviens mauvais souvenir.
Oh ouais, Jojo,
faut que tu m'excuses ma gueule, je supporte pas les femmes seules. Plus on vit, plus on gueule, comment on écrit une chanson.
Chanson.
Tes yeux, il me pose plein de questions. Je lui dis que là où t'étais heureux,
en tout cas beaucoup plus que moi.
Ta femme est très sympa,
mais depuis quelques mois elle se tâche pour n'importe quoi.
Je lui dis qu'elle te méritait pas, elle est d'accord avec moi.
Je sais pas si c'est un compliment, moi je trouve ça plutôt navrant.
Donc pour moi, les rois des rois, le plus grand, les plus grands, je ferai n'importe quoi
pour tout redevienne comme avant.
Si tu veux, on oublie tout,
je retourne dans ton nom.
C'est une histoire de fou,
aux intrigues un peu sombres.
Tu resteras mon idole, un exemple ici-bas.
Deux amis pour qui tout colle sans problème ni tracas. Je suis qu'un mauvais présage,
un sale gosse passage,
un vieux copain qui craint,
fâché du quotidien.
Enfant pourri gâté
qui sait pas s'arrêter,
qui passait son premier devient mauvais souvenir.
Ouais Jojo,
faut que tu m'excuses ma gueule,
je supporte pas les femmes seules. Plus on vit, plus on vient, comment on écrit de chanson.
Je suis qu'un mauvais présage,
un sale gosse passage,
un vieux copain qui craint,
fâché du quotidien,
enfant pourri gâté
qui sait pas s'arrêter,
qui passait son prévenir devient mauvais souvenir.
Ouais Jojo, faut que tu m'excuses ma gueule, je supporte pas les femmes seules. Plus on vit, plus on vient, comment on écrit de chanson. Je suis qu'un mauvais présage, un sale gosse passage, un vieux copain qui craint, fâché du quotidien, enfant pourri gâté qui sait pas s'arrêter, qui passait son prévenir devient mauvais souvenir. Un Jojo, faut que tu m'excuses ma gueule, je suis mort par les femmes seules. Plus on vit, plus on vient, comment on écrit chanson.
Yes. Merci Luma.
Merci beaucoup.
Et bravo, bravo à un, et merci à Un air de famille. Alors vous pouvez les retrouver sur la grande scène cet après-midi à 15h15, les musiciens des Hurlements de Léo et des Ogues de Barbac. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et on va retrouver également tout à l'heure en live, comme on dit, Camille et Julie Berthollet avec leurs deux violons qui vont nous jouer également de la musique en direct de la Fête de l'Humanité. Mais on poursuit aussi notre petite histoire en chanson de la Fête de l'Humanité avec Valère Staraselski, auteur de La Fête de l'Humanité comme un air de liberté aux éditions du Cherche Midi, qui est votre éditeur d'ailleurs de nombreux ouvrages, hein, Valère Staraselski. Oui, je disais... Donc, dans les années 60, hein, la fête se déroule toujours plutôt à Vincennes au début des années.
Oui.
Et c'est vraiment à ce moment-là qu'elle devient, la, on peut dire, la grande scène de la chanson française, parce que tout le monde passe là. J'ai vu Jacques Brel, mais aussi Claude François, Patachou, Nana Mouskouri, Gilbert Bécaud, Mireille Mathieu. Tous les courants de la chanson française sont invités.
Toute la chanson. Alors, la chanson internationale, des gens. Paul Robeson, par exemple, qui est une star.
Le grand chanteur américain, bien sûr.
Bien, mais c'est vrai que pour la chanson française, les artistes français, les chanteurs français. Bon, sauf Michel Sardou et quelques autres, mais viennent chanter, même y compris quand la chasse soviétique abat un avion sud-coréen, Robert Charlebois et Julien Clerc viennent chanter sur la grande scène de la Fête de l'Humanité en disant ce qu'ils ont à dire avant, mais ils tiennent à venir chanter pour le public de la Fête de l'Huma. Parce que c'est un public qui n'est pas un public forcément averti et véritablement
populaire. Mais par contre, Jean-Christophe Averti, lui, vient également.
Alors, Jean-Christophe Averti, il vient, merci. Il vient, et en fait, lui, il va d'ailleurs... comment dire, mettre en scène la grande scène, en fait les images de la grande scène, les reproductions, etc. Il va travailler pour ça, comme Oscar Niemeyer va redessiner la grande scène une fois que Myriam Makeba aura dû chanter sous un parasol sous la pluie. On va demander à Oscar Niemeyer, le grand architecte, de redessiner la grande scène.
Voilà. Alors, parmi tous ces chanteurs, évidemment.
Et excusez-moi, il y a aussi un chanteur qui est venu il n'y a pas 30 ans qui s'appelle Dominique Fillon, dont le père est très connu.
Ah, oui. Donc, c'est très éclectique. Et donc, oui, je disais, parmi ces chanteurs des années 60 qui se produisent ici, il y en a quelques-uns qu'on a plutôt l'habitude de classer parmi les anards. Je pense notamment à Jacques Brel et plus encore à Léo Ferré. Donc, les anards sont bienvenus au Parti communiste français parce que l'histoire n'est pas si simple quand on remonte un peu.
Non, l'histoire n'est pas simple du tout. Mais tout le monde est bienvenu à la fête de l'humanité, en tout cas. Et c'est vrai qu'avec le Parti communiste français, bah, disons que les communistes ont eu aussi cette vision prométhéenne. Il fallait arracher le feu aux dieux. Fort heureusement, les communistes aujourd'hui, les anarches, je ne sais pas, ont compris que c'était plutôt le mythe de Sisyphe. C'est-à-dire que le combat était incessant, il fallait porter la roche jusqu'en haut de la montagne, elle redescend, il faut la remonter, donc ils sont passés à l'âge adulte. Donc je considère effectivement que l'anarchie est une insoumission, mais que ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin, il faut passer de la révolte à l'évolution en profondeur. Mais il y a de très bons rapports. D'ailleurs, Roland Leroy, que je salue...
Avec qui vous avez écrit un livre.
Oui, avec qui j'ai écrit un livre. Roland Leroy, que je salue, était très ami avec Léo Ferré. Et Aragon n'était pas ami avec Jean Ferrat, mais était très ami avec Léo Ferré.
Et Léo Ferré qui a enregistré la plus belle version, d'ailleurs, des chansons d'Aragon,
oui,
à mon
oui,
sens.
Oui, oui. Et Léo Ferré était très, très ami des communistes, bien sûr.
Alors, il y a une chanson qu'il a, je crois, écrite pour la fête de l'humanité.
Spécialement pour la fête de l'humanité, oui.
L'âge d'or,
c'est ça. En 1959, il l'a chanté pour la première fois pour la fête de l'humanité. Je crois que c'est la seule chanson qui reste dans le répertoire français qui a été écrite pour la fête de l'humanité.
Ouais. Et il l'a enregistré quelques années plus tard avec son fidèle orchestrateur Jean-Michel Defay, justement, donc j'évoquais tout à l'heure. On va écouter cet âge d'or créé par Léo Ferré pour la fête de l'humanité.
Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dans nos veines blanches et le plus souvent lundi sera dimanche mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin. Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes tous les becs d'azur qui là-haut se promène, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons la mer à deux pas de l'étoile, les jours de grand vent. Cigale dans ses cheveux blancs. Nous aurons l'amour dedans tous nos problèmes et tous nos discours finiront par je t'aime, vienne alors.
L'âge d'or, une chanson de Léo Ferré, écrite donc spécialement pour la fête de l'humanité en 1959
si,
à l'ère.
Et si je peux me permettre, oui, sur les rapports entre anarchistes et communistes, en fait, il y a eu le stalinisme, il y a eu les régimes criminels, etc. On peut pas réduire, à mon avis, à ça, mais la
ça
leçon...
Ça existait quand même.
Oui, ça existait quand même, bien sûr. Non, mais comme les 9 millions de morts au Congo existaient, le tiers des pays, des villages rasés en, comment dire, en Irlande, la solution initiale pour les Indiens d'Amérique, bon, ça n'excuse rien, mais voilà, dans quel contexte historique ça s'est passé. Simplement, c'est la leçon de Gramsci, qui dit que les communistes ont eu trois défaillances sur l'État. Oui, il faut un État, il ne faut pas disparition de l'État, sur la nation et sur la religion. Et voilà, je pense qu'il faut reprendre ça à nouveau frais. Oui, il faut un État pour protéger les faibles, etc., pour faire appliquer des lois écologiques, etc., etc. Donc c'est ça la grande différence, et peut-être entrer dans l'âge d'or adulte, en tout cas.
Entre anarchistes et communistes, Valère Staraselski, auteur de La fête de l'humanité aux éditions du Cherche Midi, et puis plus récemment du Parlement des cigognes, un roman dont on dira un mot tout à l'heure. Mais je voudrais, alors on a dit que La fête de l'Huma, donc des années 60, c'est devenu le grand rendez-vous de la chanson française, tout courant confondu. Et puis alors, il se passe quelque chose, évidemment, à la fin des années 60. Je ne sais pas si ça a été évident, parce que c'était peut-être pas dans les gènes du Parti communiste, mais c'est tout d'un coup l'ouverture à la pop anglo-américaine qui va faire son entrée sur la grande scène de la fête de l'humanité.
Et ça va commencer par les Pink Floyd. Alors, quand les Pink Floyd se produisent, d'ailleurs, c'est la même année que Paul Naref. Qui raconte que lui, il était avec son petit orchestre, etc.
Marcel Amon m'a dit ça aussi, qu'il avait quasiment dû s'enfuir en courant, parce que le jeune public passé par 68...
Y compris, d'ailleurs, il y a un quart des spectateurs qui a quitté l'esplanade.
Un quart
Des spectateurs, enfin, Le Monde rapporte ça. Et après, c'était bien sûr la porte ouverte que les plus grands groupes, des Who, Genesis... Moi, j'ai vu Jerry Lewis à la fête de l'humanité, tous les plus grands groupes internationaux, les grands chanteurs sont venus à la fête de l'humanité. C'est un rendez-vous.
C'est un festival pop.
C'est ça, pop. C'est pas forcément, donc c'est un rendez-vous plus que national, international.
Et en général, ces grands groupes populaires qui viennent à la fête de l'Huma, ils ont un petit mot quand même militant sur la scène.
Alors ça dépend, mais les Pink Floyd avaient dit par exemple que c'était. Ou c'était les Who, je ne sais plus. Non, c'est les Pink Floyd qui avaient dit que c'était mieux que le grand rassemblement qu'ils avaient eu.
Woodstock,
c'est ça, voilà. Oui. Non, mais en plus, c'est vrai, ils l'ont réellement dit. Oui, non, mais ils sont très étonnés parce que, bon, voilà, c'est une fête, c'est un événement total, quoi.
Ouais, ouais.
On est entre soi autrement, c'est culturel, c'est politique, c'est tout ça à la fois.
Alors, les Pink Floyd, c'était en 1970, donc à la fête de l'humanité. Ils avaient repris d'ailleurs quelques-uns de leurs grands succès des premières années, de leur premier disque, et notamment Astronomie Dominée.
Stars can fry down. Cette fête de l'humanité devait avoir lieu à Vincennes, vous le savez, mais l'autorisation n'a pas été accordée cette année pour préserver les espaces verts. La fête de l'Huma, comme on l'appelle très familièrement, aura donc lieu dimanche à la Courneuve, et pour M. Fajon, ce différend est un différend, une affaire, a-t-il dit, politique.
Voilà, ça c'est le changement de le déménagement, on peut dire, de la fête de l'humanité, Valère Staraselski. Donc la fête qui s'est déroulée très longtemps à Vincennes.
Dans le bois de Vincennes.
Avant de venir ici, à la Courneuve. Est-ce que c'était vraiment pour protéger les espaces verts de Vincennes?
Oui, certainement, parce que c'est vrai qu'il fallait remettre en état. Mais c'est d'abord une décision politique, de lutte politique entre la droite et la gauche.
Ah, entre les départements, entre les communes, entre...
Non, mais vraiment plus haut niveau, parce que comment... Il y avait ça, bien sûr. Il y avait la remise en état, mais au plus haut niveau aussi. Et c'était de la même manière un peu qu'on expulsait les couches populaires dans la banlieue, où on les ghettoisait. On a repoussé le premier représentant politique de ces couches populaires en l'envoyant dans la ceinture rouge.
Et l'université de Vincennes elle-même partie à Saint-Denis à peu près même époque.
Après 10-15 ans après, oui. C'était même 20, oui, après 68, etc. Parce que j'y étais dans cette université, j'y ai même enseigné, enfin à Saint-Denis. Et voilà, donc c'était reléguer les couches populaires quand même le plus loin possible. Et en même temps, ce qui a donné aussi une puissance beaucoup plus... Il y avait, je sais plus, 70 hectares pour la fête de l'humanité. Donc là, elle a pu prendre ses aises, quoi, réellement.
Voilà, mais en même temps, qu'elle soit installée maintenant au cœur de la Seine-Saint-Denis. Je parlais ce matin, par exemple, avec le chauffeur de taxi avec qui je suis venu jusqu'ici, qui a grandi à Saint-Denis, et il disait que quand il était enfant, alors qu'il n'était pas du tout de culture communiste, avec ses copains, ils venaient tous à la fête de l'Huma. Donc c'est devenu aussi un lieu d'attraction pour toute la jeunesse de ce qu'on appelle aujourd'hui le 9-3.
Ah non, mais de toute façon, aujourd'hui, comme à Paris et à Vincennes, il y a quand même beaucoup... des bobos. Il n'y a pas que des bobos, mais il y a quand même... Voilà, c'est la fête, elle est très bien à la Courneuve, c'est évident.
Voilà. Alors, on va évoquer encore quelques artistes qui sont produits à la fête, et une dont on parle beaucoup en ce moment, pas à cause du film qui sort et à cause de l'anniversaire, c'est Barbara.
Barbara, la grande Barbara, oui.
Qui est venue ici, je crois, en 1972.
72, elle est venue chanter ici. Oui. Ce qui n'était pas facile à la fête de l'humanité, c'est jamais facile pour surtout les chanteurs
à texte,
voilà. Bien que quand même les chanteurs français soient des chanteurs à texte, hein, contrairement aux anglo-américains. D'ailleurs, il y a des très bons chanteurs, Xavier Merlet, etc. Jean Ferrat se mettait en colère parce qu'il pensait qu'il y avait bien des chanteurs français qui ne pouvaient plus passer la rampe aujourd'hui dans le système tel qu'il était. Mais en tout cas, oui, Barbara, cette immense chanteuse, est venue à la fête de l'humanité à cette date.
Et on la retrouve tout de suite dans Göttingen.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. Göttingen, bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu, que les roses sont belles à Göttingen, nous avons nos matins blêmes et l'ombre grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire. Il reste là nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen. La, 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 la. Tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Barbara dans Göttingen, Barbara qui est venue donc à la fête de l'humanité en 1972. Valère Staraselski, il faut dire que, évidemment, toute la chanson française vient à la fête de l'humanité, mais il y a aussi l'engagement qui est très présent, y compris à travers certains artistes. Je pense à John Baez, par exemple, qui est venu, je crois, en 1971.
Il chantait son fameux Sacco et Vanzetti. La première fête de l'humanité à Beson se déroule dans le parc Sacco et Vanzetti en 1930. Voilà.
Voilà. Et puis, donc, la fête accompagne certains combats de société et de politique. Je pense à Angela Davis. Je pense également à Mandela.
À Nelson Mandela. Dès 1960, des années 60, dans la fête de l'humanité, on signait des pétitions pour le faire sortir de prison. C'est vrai que c'était un combat de longue haleine et c'est dans le mouvement du 20e siècle d'émancipation, c'est quand même le siècle tout de même du dépassement du racisme. En tout cas, en Occident, les États-Unis ont des sénateurs écrivaient au président disant il faut arrêter notre politique d'apartheid avec les Noirs, sinon ils vont tous finir au Parti communiste. Et on traite les bolcheviks de traite parce que ils ont considéré qu'un Noir et un Blanc se valaient. Et Losurdo dit voilà, ça c'est un apport du mouvement émancipateur, en tout cas communiste, du XXe siècle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il suffit de regarder la jeunesse, hein, même si dans certains endroits, voilà. Donc ça, c'est effectivement et donc c'est normal qu'il y ait des chanteurs et des chanteuses qui viennent du monde entier, notamment d'Afrique du Sud.
Voilà, d'ailleurs, on entendra dans un instant Myriam Makeba, par exemple, qui a été aussi une grande figure de la fête de l'humanité.
Bien sûr, bien sûr.
Mais tiens, d'abord, pour rappeler de petites pastilles le côté « Tout le monde vient à la fête de l'Huma », on va écouter tout de suite les voix de deux qu'effectivement, on n'attendrait pas forcément spécialement ici, vu leurs engagements politiques. C'est Johnny Hallyday et Gérard Depardieu.
Vous êtes formidables. Pour remettre les choses en place, j'aimerais vous dire... Moi, Johnny Hallyday, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui à la fête de l'humanité. Car avant tout, c'est une fête des Français.
Derrière la grande scène, Gérard Depardieu se confie. Il trouve tout naturel d'être ici à la fête de l'Huma.
Pourquoi ? Parce qu'il y a Germinal et puis que c'est une fête très sympathique.
C'est pas un peu démagogique ?
Démagogue ? Non, moi je suis pas tellement démagogue. Mon père était communiste, moi je ne le suis pas, moi je suis rien d'ailleurs.
Voilà, voilà. Depardieu.
D'ailleurs,
et Johnny.
Juste peut-être une petite chose sur Johnny Hallyday, il est venu chanter trois fois, et une fois il n'est pas venu, parce qu'il avait fait une tentative de suicide, et donc il est revenu, quand il est revenu gratuitement.
Ah oui.
Et quant à Gérard Depardieu, je rappelle aux éditeurs et aux gens de la fête, qui sont sur la fête, qu'il a fait partie des gens qui ont donné des gros chèques à l'humanité.
Pour soutenir le journal.
Et y compris au Parti communiste quand il était en grande difficulté. Voilà, c'est des petites c'est des choses que, comme d'ailleurs Patrick Bruel a laissé son cachet pour le journal et tant d'autres artistes à des moments donnés de difficulté.
Et puis alors, la scène se diversifiant, s'enrichissant au fil du temps, accueille évidemment aussi beaucoup de musiciens de jazz, hein, c'est très important, je pense, avec certains d'ailleurs très aussi, qui ont beaucoup de liens sympathiques avec le parti, je pense à Bernard Lubat et à
bien
d'autres,
sûr, oui.
Mais vraiment, mais, là, c'est aussi une scène de jazz et de musique du monde, la fête de l'Huma.
Alors complètement, oui, c'est d'ailleurs, il suffit de regarder l'affiche et on voit, alors bon, je pense à Manu Dibango, etc., mais il y a vraiment les musiques du monde ici,
ouais.
Les musiques du monde se retrouvent et d'ailleurs, de toute façon, c'est un des faits du début de ce siècle, que la musique se rencontre, se mélange, s'invente en se rencontrant.
Voilà, et c'est le cas donc effectivement aussi avec Myriam Makeba dans Pata Pata.
Pata pata,
Myriam Makeba, Pata Pata, il y a des musiques qui ont le don d'attirer la foule dans les allées de la fête de l'humanité. C'est le cas notamment plus qu'avec Pink Floyd d'ailleurs, curieusement, hein, avec Myriam Makeba. Je suis toujours donc en compagnie de Valère Staraselski. On raconte l'histoire de la fête de l'humanité en chanson.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais ce qui, je pense, peut-être attire également le public nombreux là devant nous, ce sont les deux jeunes artistes classiques qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui, qui vont jouer elles aussi sur la grande scène de la fête de l'humanité. Elles sont très jeunes, mais ce sont déjà des grandes stars du classique, consacrées notamment par le disque, par la télévision. On va en parler avec elles dans un instant. On est très très heureux dans cette fête de toutes les musiques d'accueillir aujourd'hui Camille et Julie Berthollet. Camille et Julie Berthollet, merci beaucoup d'être avec nous. Vous nous rejoignez au micro. Vous m'aviez annoncé le The Entertainer de Scott Joplin.
C'était Sardas de monter en premier, ça sera après.
Vous avez interverti, hein, c'était une Sardas que vous venez de nous interpréter à deux violons. Merci beaucoup, vous êtes Julie donc,
oui.
Et Camille à l'autre bout. Bonjour Camille, merci d'être avec nous. Vous allez mettre votre casque micro. Bonjour,
j'imagine,
est-ce que c'est la première fois que vous venez à la fête de l'humanité?
C'est oui. La première fois, ouais.
Totalement.
C'est génial, on a tellement hâte de jouer demain, ça
c'est vrai.
Fantastique.
C'est très inhabituel pour des musiciennes classiques comme vous. On a plutôt l'habitude des salles feutrées, d'un public bourgeois, comme on pourrait dire, non ?
Ouais, c'est vrai, c'est un peu l'image de la musique classique, comme ça, avec un public très très vieux qui est en train de mourir pendant le concert. Mais il n'y a pas que ça.
Non, n'exagérons pas. On est sur France Musique, mais on a un public très jeune.
Non, mais il y a vraiment de tout. C'est ça qui est bien, c'est que ça peut rassembler tout le monde, la musique classique. C'est ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il y a ce public qui... un petit peu plus âgé, mais aussi un public jeune. Il y a la relève, il y a plein de jeunes qui jouent super bien et puis qui peuvent faire des choses très modernes, et c'est ce qu'on essaye de...
Oui, puis jouer en plein air comme ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup aussi. Et ça, c'est une ambiance incroyable avec autant de monde comme ça dehors. On apprécie beaucoup l'été, on aime beaucoup faire des festivals dehors aussi. Et là, l'ambiance a l'air particulièrement incroyable.
Camille, vous remettez de votre succès à la télévision?
Bah oui, ça se passe bien, il y a plein de choses, on s'ennuie pas, là le troisième album sort bientôt, on est en tournée, donc on s'ennuie pas.
Voilà, vous êtes passé à l'étape d'après, vous jouez souvent, plus souvent encore ensemble qu'avant, non? Pareil.
On a toujours joué énormément ensemble depuis qu'on est toute petite, depuis que Camille a commencé, on avait 4-5 ans, donc on adore ça, et puis on fait la tournée ensemble, on a fait les albums ensemble, donc la plupart du temps on est toutes les deux.
Voilà, il faut dire que là, d'ailleurs, vous êtes toutes les deux avec vos violons, mais vous étiez aussi venues au cas où avec un violoncelle. C'est très, toutes les cordes et avec une certaine forme de spontanéité dans vos arrangements, dans vos programmes, etc.
Ah bon, on adore arranger. Et puis, Camille fait du violon, du violoncelle, un petit peu de piano. Je fais du violon, de l'alto, un petit peu de piano aussi. Donc, c'est pratique. On peut faire un assez grand répertoire. On peut arranger beaucoup de pièces. C'est ce qu'on aime bien faire. C'est un petit peu changer. C'est pourquoi c'est prévu au départ. Donc, on profite de tous les instruments.
Alors, il faut dire que vous avez donc déjà fait un disque à deux avec l'orchestre de Monte-Carlo.
Oui, c'était le deuxième album. Ouais, chez Warner. Deuxième album. Le premier, Julie jouait aussi beaucoup dessus.
Le premier, Julie, mais il était sous le nom de Camille plutôt, mais avec Julie également. Et puis le prochain, alors vous retrouvez aussi, j'ai envie de dire, vos copains, Guillaume Vincent, merveilleux pianiste.
Exactement,
Renaud
Thomas Enco.
Thomas Enco, qui vient du jazz au classique.
Deux pièces tiganes avec guitare manouche, contrebasse, et puis des pièces aussi avec orchestre, avec ensemble. Donc c'est assez éclectique comme
programme. Renaud Capuçon sera là également?
Alors non, il n'est pas là, mais s'il veut venir sur le prochain, ça fait grand plaisir.
Voilà, en tout cas Camille et Julie Berthollet, merci vraiment d'être venus avec nous ce matin, parce que vous jouez demain en fait, ici à la fête de l'Humain. Donc comme ça vous mettez un peu dans l'ambiance.
Exactement, aujourd'hui c'est vacances, ça va.
Voilà. Et je vous propose, si vous voulez bien, de retourner au micro et devant le public pour nous jouer, alors pour le coup, The Entertainer. Voilà, le ragtime, le fameux ragtime de Scott Joplin, que tout le monde connaît par le film L'Arnaque, mais qui a été arrangé spécialement par vous-même. Voilà, c'est Julie donc qui me dit qu'elle a arrangé elle-même, donc c'était Entertainer de Scott Joplin. Camille et Julie Berthollet en direct de la fête de l'humanité où France Musique est là ce matin. Et puis on ira bien sûr les applaudir demain après-midi, donc sur la grande scène de la fête de l'humanité. Et puis leur nouveau disque, donc qui s'appelle Hashtag 3, sort chez Warner à la fin du mois d'octobre.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et je suis toujours en compagnie de Valère Staraselski, qui a écrit une histoire de la fête de l'humanité et qui est avec nous ce matin pour raconter un peu cette histoire en chanson. On arrive un petit peu à la fin de la boucle, on a évoqué toute l'histoire, mais au fond, vous m'avez dit que c'était pas si facile que ça non plus les finances de la fête, mais en gros, la fête est née pour soutenir le journal L'Humanité.
Oui.
Aujourd'hui, la fête est devenue presque plus... la vitrine la plus importante du parti communiste français.
En ce moment, on peut dire oui, mais alors ouais. Pas seulement. Il existe encore, il existe bien sûr dans des départements, les fédérations. Vous savez, il y a les médias, il y a la réalité. Donc là, il se trouve qu'on a un premier de la classe qui est, de mon point de vue, président de la République, qui s'est choisi un opposant qui est France Insoumise, mais il n'y a pas que France Insoumise et Macron. Il y a aussi d'autres partis politiques, dont le Parti communiste français, qui cherche sa voie pour effectivement renouer avec les couches populaires et pour renouer avec sa raison d'être, qui est que ces couches populaires puissent participer à la démocratie. Parce que sans les couches populaires, c'est une idée très chrétienne, ça. Quand on laisse des gens de côté, eh bien, on aboutit des catastrophes. Donc là, il faut absolument que les couches populaires qui aujourd'hui sont en dehors de la politique, soit l'abstention, soit dans la politique par le FN, ils reviennent à gauche, quoi, voilà, et qu'on puisse avancer.
Alors, il faut préciser que pour les couches populaires, cette année, à la Fête de l'Humanité, il y aura un chanteur populaire par excellence qui fait son retour, c'est Renaud. Hein.
C'est Renaud.
Voilà, et qui sera donc sur la grande scène demain à 17h50.
Voilà. Et puis bien d'autres aussi. Hein.
Et puis Iggy Pop, également un air de famille qu'on a entendu tout à l'heure, et puis des gens plus inattendus dans le monde musical, comme Yvan Le Bolloc, qui est un fou de musique manouche, je crois,
oui, tout à
et
fait.
Qui sera là avec ses guitares. Tout ça, c'est au programme de la Fête de l'Humanité cette année. Pour terminer ce petit parcours musical, j'avais envie d'écouter une chanson formidable d'un jeune chanteur qui s'appelle Cyril Mokayesh.
Oui, qui a été champion de France junior de tennis,
ouais.
Qui est né en 1985. Voilà. Et qui a écrit une chanson dont le titre est
communiste et qui lui a valu un grand succès, ce qui pouvait paraître inattendu de nos jours, et tant mieux. Cyril Mokayesh, on le retrouve tout de suite effectivement dans Communiste.
Mondialiser l'injustice, s'en asperger de bénéfices, ça les perdra. De coucouner le patronat, de boucliériser l'élite, qui t'embauche pas, mais qui profite de ces villas. La, la, Ibiza, c'est fantastique, un bain de minuit dans le capital, pendant que ta main aux ascédiques et moi. Ratiboiser la culture pour te ramollir, toi qui taffes dur et te traîner à l'usine de Cholet sur des machines à licencier. Moi, je suis communiste à ce qui paraît, rien d'héroïque, oui, mais je suis communiste. Quoi ça, ça fait pas chic. Là, et là, 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 ça les perdra comme on se perd. Ça les perdra de nous distraire, à vouloir tout repeindre en vert, à part l'Afrique. Pour ça la crise, c'est bien pratique. Je suis communiste à ce qui paraît, rien d'héroïque, oui, mais je suis communiste. Et puis quoi, et puis quoi, je suis Dalai Lamiste à peu près, à vous faire.
Kirill Mokayesh, je trouve qu'il a un talent fou et que cette chanson est très très réussie. Qu'on soit communiste ou pas, je trouve.
Oui. D'ailleurs, vous savez que le général de Gaulle disait des possédants, les possédants sont possédés parce qu'ils possèdent. Donc voilà, il faut dépasser ça. Vive le général de Gaulle quand il dit ça.
Voilà, un vrai gaulo communiste, comme on n'en fait plus aujourd'hui.
On va en faire d'autres.
À la fête de l'humanité, Valère Staraselski, qui est mon invité. On va bientôt se quitter. Mais vous avez, je le rappelle, écrit un livre sur la fête de l'humanité. Vous avez retrouvé une citation que vous souhaitiez...
Oui, alors voilà, je vais vous la lire et je vais vous dire à quelle époque elle a été écrite. Et puis, vous direz après de qui est-ce. Le capitalisme entend faire du ventre le principal organe de l'humanité et transformer l'esprit en marchandises. Sous son règne, toutes les valeurs immatérielles sont devenues des marchandises. Le capitalisme avilit la morale. Il s'attaque aux valeurs les plus sacrées comme un acide. Il dissout la moralité. Et l'auteur de ces lignes ajoutait « Les communistes veulent aller toujours plus loin dans l'union du travail et de l'art. Ils se sentent très près des bâtisseurs de cathédrales. » Ça a été déclaré c'est dans un discours d'octobre 1936 à la fête de l'humanité par Paul Vaillant-Couturier. Quelle modernité, n'est-ce pas ?
On applaudit. Modernité, malheureusement, l'histoire a plutôt été un peu dans le sens contraire, on a l'impression.
Oui, mais vous savez, c'est comme il y a eu un premier communisme, comme il y a eu un premier christianisme. Et voilà. Aujourd'hui, on est quand même avec le capitalisme, dans quelque chose qui est extrêmement destructeur. Et si on fabrique pas le communisme, en tout cas, il faudra fabriquer du communisme, c'est-à-dire des services publics, des choses pour le bien commun. Et effectivement, la chanson de Mokayesh, c'est ça qu'elle dit. Sinon, on pourra pas continuer à vivre ensemble, quoi.
Le héros de votre dernier livre, Valère Staraselski, oui. Qui s'intitule Le Parlement des cigognes et qui est un roman, c'est un communiste ?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, pas du tout. Non. C'est un
vieil homme, ça se passe à Cracovie.
Oui.
Pendant la guerre.
C'est ça. Ça se passe en 2000. Il a 94 ans.
Voilà.
Et il fait partie des. Il y a 300 000 juifs qui se retrouvent qui échappent à la mort en 1940, qui se cachent dans les bois. Et il en restera 25 000 en 1944. Et il y aura d'ailleurs des pogroms jusqu'en 1949. Et donc, je raconte le destin hallucinant de cet homme qui a survécu pendant toutes ces années. Alors, figurez-vous qu'à l'époque, ils préféraient l'Union soviétique parce que peut-être qu'ils étaient déportés pour certains, mais ils avaient la vie sauve.
Ouais.
Et donc, comme Martin Gray, dont tout le monde connaît au nom de tous les miens, qui a fini d'ailleurs au NKVD, hein, il était dans les services secrets soviétiques. Et donc, je raconte cet épisode très très mal connu, puisqu'il y a eu des pogroms jusqu'en 1949 en Pologne, où l'AKA, l'armée, disons, de droite dure polonaise, faisait descendre des types des trains, baisser leurs culottes et les fusiller sur place et se livrer à des pogroms jusqu'en 1949-1950.
Au-delà de la guerre.
Au-delà de la guerre.
Donc, c'est le sujet de votre livre.
En tout cas, voilà, c'est la transmission de ce qui s'est passé à cette époque-là, parce qu'il faut construire l'Europe. Et il faut la construire avec les nations telles qu'elles sont.
Et avec les Polonais et les travailleurs détachés.
Avec les Polonais, les Français. Et d'ailleurs, je m'appelle Staraselski, mais je suis d'origine, moi, russe. Je dis pas... Mais non, j'allais dire une bêtise. Mais en tout cas, peut-être pour finir, si je peux, en deux mots, je vais rapprocher Aragon et Paul Claudel. Aragon disait, je dis ça pour les gens qui ont entendu la chanson communiste et qui n'ont pas renoncé à agir pour l'émancipation, même si c'est difficile. Aragon disait, en général, on a toujours raison de faire la chose la plus difficile dans les communistes. Et Paul Claudel disait, faire de la lumière, c'est plus difficile que faire de l'argent. Mais faisons de la lumière, et de toute façon, c'est difficile, mais c'est quand même la voie de la civilisation et l'humanisme.
Merci, Valère Staraselski.
C'est moi qui vous remercie.
On retrouvera pendant toute la fête de l'humanité au village du livre, hein, où vous signez vos différents ouvrages. Et puis tiens, je vous ai passé ce matin pas mal de petites pastilles comme ça de documents sur la fête de l'humanité. Le dernier, là, ça date de 1996, c'est plus récent, et il nous parle de tous ces gens qui viennent à la fête de l'UMA, pas forcément non plus pour des raisons politiques.
Pour ouais, un pas cher, elles sont bonnes. Et pour picoler du cidre, puis bon, écouter les concerts.
Vous êtes communiste ?
Non.
Pas du tout.
Non, mais c'est important qu'il y ait des fêtes de contestation, même si je suis pas d'accord. Ouais, c'est important.
L'UMA sur tous les chemins, l'UMA dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin, et l'humain dans toutes les mains, sur tous les chemins, l'humain. Un journal dans un matin de France, à Marseille, à Brest ou à Nancy, un journal sous les toits de Paris, une fille, un gars, une romance, l'humain sur tous les chemins, l'humain dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin, et l'humain dans toutes les mains, sur tous les chemins, l'humain. Un vélo dans le jour qui va naître, une belle au seuil de sa maison, un salut au fil d'une chanson, du soleil au carreau des fenêtres, l'humain sur tous les chemins, l'humain dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin, et l'humain dans toutes les mains, sur tous les chemins, l'humain. Des oiseaux près d'une source claire, des enfants qui chantent le ciel bleu, et des nids pour tous les amoureux. Le bonheur n'est pas une chimère. L'humain sur tous les chemins, l'humain dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin, et l'humain dans toutes les mains, sur tous les chemins, l'humain.
La valse de l'humain, enregistrée en 1955 par Éric Amado. Je le dis avec un plaisir particulier parce qu'Éric Amado, c'est le père de notre réalisatrice, Christine Amado. Et voilà, c'était aussi un grand chanteur. Je ne sais pas s'il était engagé, mais en tout cas, il était à la Fête de l'Humanité en 1954 et il a enregistré l'année suivante cette chanson. Et il faut préciser en plus sur une musique de Jean Wiener, grand compositeur, qui était aussi, évidemment, on le sait, un très proche du Parti communiste français. Voilà, l'émission se termine dans quelques minutes. Maintenant, on commence à sentir un petit peu l'odeur des frites dans les allées de la Fête de l'Humain et de beaucoup d'autres stands d'ailleurs, dont certains sont, je crois, très gastronomiques. Alors on va finir l'émission sur un petit air de Musette qui lui-même sent un petit peu la frite.
Quand bébé veut sortir sa Margot, il va pas dans les chics à boulot, ou qu'on se met tout autour du garrot une serviette. Il aime pas les couverts de métal, les beaux verres taillés dans du cristal. Il vous dit comme un roi, je bouffe avec mes doigts bien pressés à la graisse de chevaux de bois.
Tout ça
là où y a des frites, au rythme d'un orchestre qui fait des
pom-pom.
On s'enfile des litres, le gros bleu ça fait mieux passer les
pom-pom.
Avec Titine et Tatar gueulant leur ma tante, tante et tonton, nous allons
pom-pom.
Là où, là où, là où, là où, là où y a des frites,
pom-pom.
Il connaît un petit coin près de Saint-Cloud, où le patron vous pèse près d'un égout, une friture de goujon pour 100 sous, qui fait faire. Dans le parfum d'une usine à trottin, on y sert de la moule et du gros pain. Bébert vous le dira, oh ce que c'est chouette tout ça, bien servi sur un beau papier gras.
Où ça?
Ben là où il y a des frites, au rythme d'un orchestre qui fait des
pom-pom.
On s'enfile des litres, le gros bleu ça fait mieux passer les
pom-pom.
Avec Titine et Tata, gueule en or, ma tante, tante et tonton, nous allons
pom-pom.
Là où, là où, là où, là où, là où, y a des frites
pom-pom.
qui ont des maux d'estomac, qui peuvent pas boire ceci, manger ça. Quand ils ont servi dessus un plat, des bonnes choses, ils font rire tous ces pleins du gousset. Le monde bébé qui s'en met plein le cornet, disant va les amis, mieux qu'une cure à Vichy, allez donc pour avoir de l'appétit.
Voilà, ainsi se termine ce nouvel épisode d'Étonnez-moi Benoît, une mission de Benoît Duterte préparée par Annie Comier. Aujourd'hui en direct de la Fête de l'Humanité avec à la technique Pascal Bresse, Laurent César, Adrien Gazza, Alexandre James et Christine Amado, bien sûr, pour la réalisation. Ensemble samedi prochain à Strasbourg au Festival Musica où je recevrai le jeune chef d'orchestre Jérémy Rohrer, des groupes de musique traditionnelle alsacienne et également une compagnie d'opérette. Voilà, ce sera dans un autre genre samedi prochain. Rendez-vous à tous pour Étonnez-moi Benoît, et maintenant vous retrouvez sur France Musique Philippe Venturini.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.